bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bravo. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on est ravis de vous retrouver avec Léa Kadouchevedi, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Jérémy Crédville, Tanguy Passion et notre invité Sandrine Guibert. Qui n'est pas que la comédienne préférée, l'actrice préférée d'Ali Rebaï. Nous aussi, on l'aime et on est ravis de vous accueillir, Sandrine. Merci.
Moi, je suis très bien accueillie, en tout cas, entre ces deux nouvelles.
Vous êtes à la... On a l'impression de retrouver le personnage de mon bébé, ouais. C'est-à-dire dans la séduction, dans le, dans
un peu ça la... Ça peut s'énerver vite aussi.
On peut la...
Ouais, peut ça monter peut dans s'énerver. Les tours très vite, attention à ce que vous dites.
Exactement. Le nouveau film de Lisa Azuelos, vraiment dans la lignée de LOL, j'imagine que vous l'aviez vu comme des
bien
millions
sûr,
de Français.
Bien sûr, je l'ai vu et revu même. J'étais forcée par ma fille et par les copains de ma fille. Et pas que forcée, parce qu'après c'est moi qui voulais le revoir toute seule.
Mais ouais, bien rattrapé.
Ouais. Là, vous partagez l'affiche avec la fille de Lisa Azuelos, Thaïs Alessandrin. On va en parler d'abord de cette situation de jouer avec la fille de la réalisatrice. J'imagine que c'est la première fois de votre vie que ça...
Non, je l'ai fait dans La Belle et la Belle de Sophie Filière. Je jouais avec Agathe Bonitzer, qui est sa fille.
Exact. Votre double, en plus,
et
dans le film.
Et c'était un peu marrant, parce que c'est un peu du même ordre avec les deux. C'est qu'il y a, ça ne pèse pas du tout sur le film. C'est comme si je voyais deux meilleures amies qui étaient plus complices que d'ordinaire.
Est-ce que c'est même touchant qu'une maman fasse cette transition avec sa fille?
C'est touchant. Pour une mère qui a, moi qui est aussi une fille, c'est très touchant de voir une complicité pareille entre mère et fille. Je pensais que j'étais la seule, en fait.
Alors, mon bébé, c'est vraiment... Je pense que beaucoup de... Alors, je sais pas si beaucoup de mamans vont se reconnaître dans votre personnage, mais on est vraiment dans le personnage de la fille, la femme branchée, parisienne quand même,
dans un milieu... Elle parle d'elle, Lisa, hein, elle n'invente pas, c'est ça qui est bien. D'ailleurs.
Dans un milieu assez confortable avec ses trois enfants, qui voit le dernier petit bébé, mais qui a quand même 20 ans, en train de partir, ou de prévoir, ou 18
17.
Ans.
Elle 17, elle, 18, 18, elle va passer le bac.
Elle a à peine 18, elle passe le bac.
Mais Nagui a le bac à 27. on comprend la bourde.
Si Nagui, sa référence, c'est le bac, c'est vrai qu'elle a 23.
C'est ça.
Elle passe pas.
Et toi aussi,
moi je suis.
Elle a moins de 30.
Elle ne passe pas.
Je suis la bande.
Elle ne passe pas. Sandrine, elle ne passe pas le bac.
Elle rentre à la maternelle.
Vous passez le bac parce que c'est une mère qui passe l'examen en même temps.
Je peux vous dire que j'étais en train de passer le bac vraiment à la maison avec la mienne. Donc je vivais en recevant le scénario.
Génial.
Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on est sous...
Il y a un écho ?
Il y a des caméras à la maison, quoi. C'est bizarre, on est surveillé, on est sous surveillance. Et après, en le tournant, c'était vraiment parallèle à ma vie. Mais même l'anniversaire fêté dans le film, je fêtais le mien une semaine avant. Tous les résultats du bac, on l'a
et
vécu
d'appeler,
après.
Et d'appeler sa fille, même quand elle a 17-18 ans, mon bébé ?
Non, ça, j'ai jamais fait, je l'appelle mon moineau.
Ça va. Le film, on vous le recommande en tout cas. Il arrive le 13.
On a un bruit d'ailleurs maintenant. On a du blé maintenant.
Chaque mot que je dis, il y a un truc ou pas?
Casserole.
J'ai que le moineau.
C'est fantastique.
Très bien. On va parler de ce bébé, de mon bébé, ce film qui sort ce mercredi 13 mars dans deux dodos. Mais d'abord, voici l'interro. Concernant Sandrine Kiberlin. Alors, elle assistait à la dernière représentation d'une pièce culte, une pièce mythique. Laquelle ?
À la Cage aux Folles ?
Non.
Boing Boing.
Mais c'est l'esprit. Ça continue Boing Boing, non ? Ça se joue pas toujours ?
Je sais pas.
La dernière.
Il y a un monsieur qui me dit oui, d'accord, monsieur.
La toute dernière. Ça se joue encore ?
Le Père Noël est une ordure ?
Non, je rêve.
Quoi ?
Non, je. Alors,
quoi ?
Je refuse. Je refuse.
Vous avez soufflé.
Mais évidemment.
Pas du tout.
Mais il y a une complicité.
Il y a un micro juste devant nous, je m'aurais vu.
Mais non, attends, c'est-à-dire.
Je suis tricheuse grave.
Mais grave, c'est-à-dire que Jérémy a un
casque. On a la radio.
Jérémy a un casque. Il retire son casque, il se rapproche de Sandrine qui parle, il fait.
Non, en plus, il a rien demandé, c'est moi qui lui ai fait.
Merci Sandrine.
Mais si vous voulez draguer librement, vous pouvez, Sandrine.
Non, c'est pas de la drague, c'est juste que j'aime bien aider quand on joue.
Comme par hasard, vous avez pris le plus mignon de la bande.
Non,
c'est moi le plus mignon. Mais c'est moi le plus mignon. Vous êtes bourré, Nagui, ou quoi?
pas pour les autres.
Quelle maladresse.
Merci pour Daniel. Hein. Oh là là. Mais vraiment, vous êtes un chien.
Ils ont un égo.
De toute façon, tu n'auras pas le point. Ce n'est pas
vrai. Mais si.
Mais ça ne sert pas à faire gagner quelqu'un.
Si. Il y a une prime à la fin de l'année.
Mais Sandrine, c'est moi qui gagne.
Il y a une prime à la fin
d'année. Oui, mais
il y a une prime.
Ils sont loin derrière.
Il y a une prime à la fin de l'année. Alors, attends, parce qu'au départ, la règle du jeu, c'était une prime au milieu de l'année. On l'a jamais vu. Et là, maintenant, c'est la fin d'année.
Attends, alors,
je m'explique.
Moi, on m'avait dit, c'est une prime le 11 mars.
Tu vois.
C'est une prime fin juin. Fin juin étant le milieu de l'année civile et la fin de l'année radio.
C'est comme la prime à la casse, c'est hyper dur.
C'est super drôle.
Avez-vous gardé un souvenir? Parce que, évidemment, on se dit c'est culte, c'est mythique, mais est-ce que vous avez un souvenir précis de cette représentation du Père Noël?
Oui, parce qu'ils avaient eu un fou rire qui a duré à peu près 10 minutes, je crois. C'est cela, oui. Nous, on était mais par terre de rire et ça a duré 10 minutes sur scène.
Même eux se
Mais ils se faisaient des vannes, ouais. Je sais plus ce qu'ils se faisaient, mais ils se faisaient vraiment. Ils se sont fait des pièges sur scène. Je me souviens pas de quel piège, mais c'était très très drôle.
Vous savez d'où
ça a duré beaucoup plus longtemps.
Vous savez d'où vient le C'est cela, oui. D'ailleurs, on recevra Christian Clavier ce mercredi. Mmh. C'est d'où vient l'expression. C'était Christian Clavier et Thierry Lhermitte qui ensemble avaient le même agent et vont voir son agent pour expliquer qu'il se casse, qu'il change d'agent tous les deux. Et
le mec a dit C'est cela, oui. Au bout du rouleau, pour maintenir.
Un peu d'horreur,
un peu d'inité. Parce qu'il ressentait, il avait cela, oui.
Qui est Julia Margelu?
Alors, c'est pas son nom. C'est pas son nom. Donc pas son... On arrête le jeu.
Ah, c'est vrai, voilà.
Vargelu.
Vargelu, pardon.
Voilà, ah, merci.
Si elle se reconnaît.
Julia Vargelu.
Alors, c'est un professeur. Être réel.
Professeur.
Ouais. C'est un être réel.
De chant.
Dentiste.
Non.
Orthophoniste. C'est son double.
Non.
Ça doit être une coach.
Sa sœur.
Non.
Sa maîtresse.
Sa doublure vocale.
Non. C'est quelqu'un qu'elle n'aimait pas.
Merde, tu es surveillé par Nagui.
C'est celle qui lui a piqué un mec important dans sa vie.
Son
premier chéri, c'est celle qui était aimée en classe par tous.
Exactement.
C'est quoi ?
C'était la plus jolie de l'école.
Mais c'était on n'avait même plus la place d'exister, quoi. Moi, Julia Vargelu, c'était mon exemple absolu de je mets le bon pull, j'ai pas besoin de me coiffer, je suis toujours belle, j'ai les bonnes baskets.
La déprime.
J'arrive, et tous les mecs qui la regardaient, elle avait un truc un peu à l'italienne. Julia Vargelu.
Ouais. Est-ce qu'en plus elle était sympa et intelligente?
En plus, elle était drôle, elle était sympa, elle avait un peu tout.
Elle est devenue quoi? Oui, parce que c'est toujours l'après qu'elle
est. C'est moi. L'après, c'est le drame. L'après, généralement, c'est
la revanche.
Non, je l'ai croisée à un printemps du cinéma et tout. Mais de loin, je l'ai reconnue de loin avec sa copine Pascal Fall.
Mais vous avez tous les noms.
Mais oui, parce que je me souviens de ces deux-là qui étaient les deux plus belles. Mais qui me complexaient, parce que moi, j'avais genre 15 ans. Et j'étais une espèce d'asperge aux cheveux courts avec un appareil à bague. Enfin, c'était vraiment, mais c'était pas possible. Et elles étaient.
Canon.
Mais mûres avant l'âge, hyper, hyper à l'aise avec les mecs. Enfin, un truc. Donc, je les ai vraiment gardées en tête. Et je les ai vues toutes les deux. Et je les aimais bien en plus. Donc, je les ai vues toutes les deux au printemps du cinéma, toujours aussi belles.
Mais elles servaient du popcorn.
Là, imaginons que Julia et Pascal, là, soient en train de vous écouter. Vous leur diriez quoi?
Bah, je leur dis.
On se revoit, on se fait un pot.
Je leur dis, je suis devenue pas mal aussi.
Il paraît qu'elles ont hyper mauvaise haleine. Il paraît. Hein.
Quel est le premier commerce que Sandrine Kiberlin repère, vous visite quand elle arrive?
Pharmacie.
Dans une ville.
Ouais, moi aussi, je suis comme ça.
Non, mais parce qu'on est très filles. Non, il y a beaucoup de filles qui font ça, non?
Ouais, qui ont une passion pharmacie.
Hypocondriaque ou pas?
Non.
Non, passion, parapharmacie.
Ouais, parapharmacie, produits de beauté, tout
d'accord.
Ça.
Pharmacie lit.
Les petites bombes d'eau comme ça, rafraîchissantes.
Petits brumisateurs.
Les brumisateurs, ouais.
Les trucs de poche aussi, parce que pour voyager,
les
c'est pratique.
Les petits lipsticks pour pas avoir les lèvres
percées. Les lingettes.
Tout ce qui coûte très cher.
Jamais de lingettes, j'aime pas, moi.
Non, tout ce qui non, coûte, moi, j'aime bien,
tout ce qui coûte très cher et qui ne sert à rien, on est d'accord.
Tout ce qui coûte très cher, mais qui sert quand même.
Et qui pollue, et qui sert à rien.
Oh là là, ça va, dis donc.
De quel genre, il met jamais de brumisateur sur son visage.
Mais à quel moment?
Il jette des pseudos à la tronche, ça n'a rien à voir.
À quel moment?
Il a pas le temps.
Moi, c'est directement, c'est l'arrosoir. De quel réalisateur?
Pas de geste. De geste.
Ouais, il était énorme,
dommage,
cet arrosoir.
On aime bien cet arrosoir.
Gros arrosoir. Ah,
énorme arrosoir.
Chapeau, alors moi, franchement, je suis...
J'espère que ça a été filmé, parce que...
Finalement, on peut faire un grand plan de l'arrosoir.
On brouille les plantes.
Nagui, tu nous le fais au ralenti?
On sous-estime la jardinerie, tout
bon,
ça.
Bon, est-ce qu'on peut continuer?
Si t'as fini, toi.
De quel réalisateur Sandrine Kiberlin serait-elle tombée à coup sûr, dit-elle, amoureuse si elle avait eu la chance de tourner avec lui?
Spielberg.
Non.
Clint Eastwood.
Mais il y a un rapport entre les deux. Entre Spielberg et lui.
James Cameron.
Non.
Scorsese.
Vous êtes vachement.
Ouais.
Il y a un rapport.
Kassovitz.
Non.
Un rapport entre...
Français ou américain?
Français.
Français. Il y a un rapport entre Spielberg et ce réalisateur
Truffaut.
Français.
Truffaut.
Exactement.
Ah ouais, Truffaut, forcément.
Forcément.
Ah ouais, je comprends tellement.
Mais pourquoi tomber amoureuse, pardon?
Et même un jour, Fanny Ardant m'a dit « Il t'aurait beaucoup aimé ». Ça a fait ma joie pour toute ma vie, je vous avoue, franchement. Il aurait tourné avec toi. Non, mais parce qu'il a tout, François Truffaut. Parce que c'est un mélange d'élégance, d'humour, d'enfance.
Est-ce que, comme on l'a souvent entendu à ce micro, entre les actrices, acteurs et les réalisateurs, il y a une question de désir. Est-ce que de franchir le pas et de dire à une réalisatrice ou un réalisateur « j'ai envie de tourner avec vous », c'est quelque chose que vous permettez, ou au contraire, il y a une forme de pudeur en disant « non, je n'irai jamais dire à quelqu'un que j'ai envie de travailler avec lui ou elle ».
Longtemps, j'ai cru qu'il ne fallait pas le dire, parce que j'ai toujours cru que le métier d'actrice, c'était de se faire désirer. Enfin, c'est pas d'ailleurs, c'est une certitude. C'est ça, ce métier. On attend d'être désiré de l'autre.
Et pas d'allumer un désir chez l'autre. Quoi.
Et j'avais l'impression que d'allumer le désir de l'autre, enfin de témoigner de son propre désir, pouvait éteindre le désir du metteur en scène. Je me disais, ça force son désir.
Comme en amour, quoi.
Oui, mais en amour, on peut forcer le désir de l'autre. Ça c'est
vrai.
Ça s'appelle autrement.
C'est jamais très bon.
Oui, ben voilà, c'est ça. Ça marche.
Mais moi, je suis pas trop dans la stratégie. Donc ça n'a pas toujours marché pour moi dans la vie, mais je suis plus pour dire... En amour, je peux dire les choses et forcer le désir, enfin, pas savoir qui désire plus l'un que l'autre et tout ça. Mais dans mon métier, je sais que le désir doit venir du metteur en scène. Donc j'avais toujours un peu peur en disant à un metteur en scène que je voulais travailler avec lui, que ça allait même casser l'envie.
Et vous avez changé.
Mais je l'ai fait quand même. Ouais. Je l'ai fait, mais je l'ai fait que deux fois.
Mais par courrier, par message?
En fait, un jour, j'étais à l'autre bout du monde et j'ai vu à la télévision un film de Stéphane Brisé qui s'appelait Le Bleu des Villes, qui était son tout premier film. Et j'ai eu un choc, comme si je voyais un Truffaut d'aujourd'hui, quoi. Mais qui n'était pas non plus un Truffaut. Mmh. Enfin, quelque chose de
qui était bien
de,
à lui et en
fort,
même temps.
Bien voilà, à lui et à part. Et en rentrant à Paris, j'ai demandé à voir un film qui s'appelait « Je ne suis pas là pour être aimé » que j'avais pas vu, qui avait fait beaucoup parler de lui et tout ça. Et quand j'ai vu « Je ne suis pas là pour être aimé », ça m'a confirmé que c'était vraiment un metteur en scène qui m'est vraiment comme une rencontre amoureuse, quoi, où vous voyez vraiment une envie d'être filmé par lui, un truc vraiment, un langage cinématographique, tout me plaisait. Donc là, je me suis dit « Merde, je lui dis ». Je m'en fous. Je suis passée par les producteurs, en fait, et je lui ai téléphoné. Et je lui ai dit, ou je lui ai écrit, je ne sais plus. On s'est rencontrés. Là, il m'a parlé de Mademoiselle Chambon, qu'il était en train de préparer. C'est très drôle, parce qu'il me parlait de Mademoiselle Chambon, et quand il m'en parlait, maintenant que je sais ce que c'est Mademoiselle Chambon, j'imaginais le film à la campagne, sur un type qui vivait à la campagne. Et avec vraiment, la fille était pour moi un rôle secondaire. Alors je l'écoutais, je me disais, ah super, le film qu'il va faire, ça a l'air chouette. Mais je ne m'imaginais pas du tout faire partie de ce projet. Et après, quand il a réfléchi à l'héroïne, il est venu me trouver. Et il a pris Vincent Lindon comme pour le rôle de l'homme. Et j'ai fait une deuxième fois ça avec Alain Resnais. Alain Resnais, je lui ai écrit. Que j'aimais ses films, mais je lui ai bien écrit, c'est pas pour tourner avec vous, c'est pour vous dire l'admiration que j'ai pour vous, et notamment pour un film qui n'avait pas fait l'unanimité, qui s'appelait Cœur, qui je trouve est un film sublime sur l'amour et tout ça. Et il ne m'a pas répondu. Donc je me suis dit, ouais, Alain Resnais...
okay. Un peu mufle.
Ok, Alain Resnais, bon ça c'est fait.
Mais est-ce que ça a plu une réponse, cette lettre?
Non, mais voilà. Il m'a répondu 10 ans plus tard en me disant, ça y est, j'ai le rôle pour vous, j'attendais d'avoir le rôle pour vous.
Waouh.
Et c'était bouleversant, c'était son dernier film, et on a fait ce film Aimer, boire et chanter.
Parlons d'une autre rencontre.
Comme quoi
non, mais
on peut témoigner quand c'est sincère de l'amour surtout, qu'on a pour les réalisateurs.
Je pense surtout que les réalisateurs ont autant envie que les actrices et les acteurs, et on s'en rend compte à ce micro, ils ont envie d'être aimés aussi.
Bien sûr.
Et que d'entendre un compliment au milieu de toutes les critiques ou éventuellement des contraintes données par les producteurs qui sont autour d'eux et des embûches qu'ils peuvent rencontrer en montant des projets, avoir quelqu'un qui dit tout l'amour et surtout qui demande pas
à tourner avec eux, en fait. Le truc, c'est que je ne pourrais jamais...
Non, mais Sandrine, il peut toujours avoir cette suspicion de se dire le compliment n'est pas gratuit.
Mais qu'il l'est. Mais moi, en tout cas, je ne leur souffle pas le truc, parce que ce n'est pas le propos, en fait. Ce n'est pas « je veux tourner avec vous, nanana ». C'est entendu, en fait, dans le truc.
C'est dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime.
Voilà.
Quoi.
À ce sujet, il y a une très belle lettre.
Parce qu'on n'a qu'une vie et que c'est trop bête. Moi, pas, je peux dire à quelqu'un, on n'a qu'une vie, on ne va pas ne pas tourner ensemble. Je pourrais le dire comme ça, mais je le dis, je n'arrive pas à le formuler comme ça. Mais juste dire, voilà, je suis là, j'ai envie de vous dire que j'aime vos films.
C'est bien dans une période où les gens passent plus de temps à dire à d'autres qu'ils les détestent ou qu'ils les aiment pas et à les clasher que de passer consacrer
sûr,
son temps
à Internet.
Et à ce titre, il y a une très belle lettre de Truffaut, justement, puisqu'on parlait de lui, à Gérard Houry, pour Rabbi Jacob, qui lui dit son admiration, son affection, et qui était gêné, puisque ça a été un tel succès, qu'il se dit, voilà, vous allez prendre ça comme un compliment un peu forcé, obligé, et il tourne la lettre vraiment très joliment, très élégamment, comme était Truffaut.
Truffaut, il avait fait aussi ça avec Jacques Demy, sur Peau d'âne. Il avait voulu assister à un moment du tournage, parce qu'il avait aimé les films précédents, donc il avait été le voir tourner, et il lui avait dit aussi toute l'admiration. Moi, je trouve ça tout... Mais moi, je le fais avec d'autres acteurs aussi. Ouais. Et on se le dit entre acteurs. Quand on a présenté Mon bébé à l'Alpe d'Huez, Karine Viard est venue me dire qu'elle trouvait ça super. Moi, je peux appeler une actrice pour lui dire qu'elle est super... Et Fira, par exemple, Virginie et Fira.
Ouais, sans qu'il y ait de compétition.
Je l'appelle et je lui dis, mais t'es génial dans Victoria. Et parce que ça fait tellement plaisir, en fait. Mais c'est comme des gens qui bossent, vous, à la radio, ou quand vous entendez quelqu'un que vous aimez bien. Bon, pas vous, parce que vous êtes mauvais,
odieux.
On le sait.
Enfin.
Mais quelqu'un de normal.
La vérité éclate.
De généreux et qui a du cœur. On peut le faire.
Très bien. Le film sort demain, c'est la fin de cette émission. C'est même pas demain, d'ailleurs, c'est mercredi. Le 13 mars, donc vous serez à l'affiche de Mon bébé de Lisa Azuelos. Vous nous dites que c'est elle, entre guillemets, ou en tout cas c'est très autobiographique, ce qui peut se passer dans
LOL.
Ce film.
Comme LOL,
en fait. Où elle découvre une adolescence qui explose. Là, c'était Sophie Marceau qui jouait la maman. Cette fois, c'est vous, Héloïse. Ouais. Héloïse avec le... avec ce prénom d'ailleurs sur lequel vous jouez, il y a une scène avant de rentrer dans le sujet du film. Héloïse, il y a une scène de drague avec Yann, comme on dit. C'est de l'impro ou pas? Tellement c'est drôle et tellement c'est naturel.
La scène n'était pas écrite.
Elle est dingue.
Mais j'étais déjà très Héloïse. C'était presque la fin du tournage, donc j'étais imprégnée du personnage.
Déjà, c'est fin de soirée un peu pompette.
Mais que vous croyez, je bois pas, moi.
Non, mais
elle me dit, voilà, Héloïse, là, elle est ivre. Kian, t'es ivre aussi. Vous vous rencontrez au café, au bar. Allez-y, quoi. Mais moi, Kian, en plus, il est évidemment tellement à l'écoute, tellement fort dans ce genre d'impro. Il a une répartie incroyable et tout. Et je sais pas, on est parti sur lui qui me dit « t'aimes bien mes cheveux ?» Bon, et sachant qu'il est chauve, je me suis marrée. J'étais déjà dans l'état d'Héloïse ivre, et là on est parti en impro. Et effectivement, j'ai fait tout un truc. Il me dit « comment tu t'appelles ?» Et je lui dis « Héloïse ». Et je le regarde et je suis ivre, et je lui dis « puis c'est bien de s'appeler Héloïse parce qu'on peut faire « Héloïse » ou « Héloïse ». Je sais pas, enfin c'est parti dans un truc autour d'Héloïse.
Non mais on sent c'est-à-dire que c'est à la fois désespérant, c'est-à-dire que la vanne, voilà, c'est ça. On se dit mais la pauvre...
Il dit ça avec le sourire, le chien.
Voilà. Non mais c'est pas ça, c'est que c'est charmant.
C'est pathétique.
C'est charmant de voir une femme qui veut essayer de séduire en faisant de l'humour et qui s'empêtre dans ses propres vannes, mais c'en est encore plus séduisant.
Ouais, et puis on a... En fait, ces scènes-là, les scènes de comédie, il faut jamais chercher à faire rire. Il faut jamais chercher à se dire « Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en étant ivre de drôle ?» Non, faut être vraiment Héloïse.
Surtout que c'est pas facile de jouer l'ivresse, apparemment, d'après ce que j'ai entendu
dire
de la part des comédiens.
Faut être vraiment dans la situation de quelqu'un qui est un peu...
En lâcher prise.
Qui est en lâcher prise, qui est un peu éméché, qui est un peu... Du coup, qui s'abandonne encore plus que... En fait, les acteurs s'abandonnent devant la caméra, mais alors quand on vous dit ils sont ivres, c'est un lâcher prise total, c'est encore plus d'abandon. Donc tout ce qui vient dans notre esprit, faut oser. Mais on ose quand Lisa Azuelos en face de nous est partante et preneuse. On sentait qu'elle se marrait derrière la caméra. Donc
alors
on en rajoutait.
cette maman de trois enfants qui a sa petite dernière qui va avoir 18 ans, va quitter le nid. C'est une mère célibataire. Le papa étant Yvan Attal. Il y a d'ailleurs une scène, la scène de rupture à table qui est dinguissime.
De flashback.
Incroyable.
Mais qui est atroce surtout. Qui est horrible. Ouais, qui est horrible.
Bah
qui est très réaliste.
Il veut pas assumer la responsabilité de la séparation et plutôt que de dire dire le discours préparé devant les enfants.
D'un commun d'accord.
D'un commun d'accord. Il explique que maman, en fait, a décidé de partir. C'est maman la responsable.
Ouais, c'est maman la responsable. Ouais. Et elle, comme elle a plutôt tendance à protéger toujours ses enfants, mais là, elle en peut plus et elle lui dit, tu veux que je raconte donc aux enfants ce que tu fais toutes les semaines dans cet hôtel? Et elle arrive pas à tenir le coup et elle quitte la table, quoi. Mais devant, ce qui est super bien filmé, c'est les réactions des enfants, parce qu'on prend toujours, enfin, souvent, malheureusement, dans les ruptures, quand les enfants sont là, ils sont témoins et otages de ces situations terribles.
Ils ressentent même ce qui se passe avant que les parents ne disent quoi que ce soit.
Ouais, voilà, avant même de le savoir.
Ils sont éponges, ils sont en Bluetooth du début jusqu'à la fin. Exactement. Donc il y a cette scène de rupture, cette maman qui se bat contre les éléments.
C'est-à-dire qu'à partir de cette scène, je trouve qu'on aime Héloïse. Parce qu'on sait que le mec c'est pas forcément bien conduit avec sa femme. Donc, on est du côté d'Héloïse, quoi.
Non, mais
on part dans l'histoire. On l'aime
dès le début parce que
elle est amorale sur plein de trucs.
Ouais.
Toi, t'es mon préféré.
Oui. Et puis, par rapport à l'amour qu'elle porte à ses enfants, c'est-à-dire qu'elle est capable de justifier une scène de triche qui est quand même assez exceptionnelle, d'aller tenir même une conversation avec la responsable du lycée et maintenir que non.
Elle a pas triché.
Non, elle est là pour défendre sa fille. Donc elle enfreint certaines règles quand c'est pour l'amour de sa fille.
Mais moi, je comprends très bien.
J'ai déjà remarqué que vous aimiez tricher, oui, ça c'est sûr.
Non, mais même, j'ai jamais eu d'incompréhension par rapport au scénario, si vous voulez.
Tout est normal.
Elle est très proche de ce que je peux ressentir.
Mais est-ce que c'est pas trop proche? Est-ce que c'est pas une maman copine limite avec ses enfants? Et pas une mère au sens.
Ça m'a amusé de jouer ça parce que je suis pas comme ça dans la vie, aussi copine avec ma fille, à partager la fumette, le lit, ma fille n'a pas de doudou et tout ça. Ça, c'est la vie de Lisa, mais ça m'amusait beaucoup de rentrer dans le cadre de Lisa et de me servir de ce que je suis moi avec des limites qui sont différentes et cette espèce de coulerie qu'a Lisa et qui est plus à l'aise. Lisa est plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Mais vraiment, elle raconte ça aussi dans le film. C'est une femme qui a sa vie de femme. Elle a des copines, elle a des amants, elle a tout ça. Mais elle vit vraiment entourée chez elle. C'est porte ouverte et ils sont tous les copains de sa fille sont là et elle vit avec eux.
Période de transition. Donc la petite dernière quitte le foyer et la maman se retrouve seule. À la fois, il y a la tristesse de ne plus avoir d'enfants à la maison et le moment de se dire mais est-ce que je peux être encore sur le marché de l'amour entre guillemets sur les applications, draguer, être draguée.
Mais il y a surtout tout ce temps que j'ai passé à aimer mes enfants et à pas laisser la place à autre chose parce que c'est pas sacrificiel du tout, c'est à passer un tel temps de bonheur avec mes enfants. Héloïse, elle est comblée par ses enfants. C'est même pas dans son cerveau de faire rentrer un homme dans sa vie à ce moment-là. Il y a des femmes comme ça qui vivent célibataires avec leurs enfants et quand les enfants s'en vont, c'est une ouverture possible. C'est à nouveau être à nouveau sur le marché, mais à nouveau le cerveau s'enclenche différemment de voilà, il y a la place pour autre chose. Les enfants sont toujours la priorité, même à distance, mais il y a la place, physique même pour autre chose.
Ouais, comme
il
n'y
avait pas pendant. Pendant toutes les, le moment où elle élève ses enfants.
D'où ce côté très rock'n'roll d'ailleurs dans les fringues, la manière, les mini-jupes, les Santiago, c'est.
Ouais, Lisa, elle voulait que je sois habillée comme dans la vie, un peu plus comme
rock,
moi.
Ouais.
Et en fait, moi, j'ai dit que j'aimerais bien qu'elle soit plus rock. Qu'elle soit un peu, moi, en exagéré de ce que j'ose pas dans la vie, par exemple.
Oui, mais c'est aussi
pas dans la vie, c'est aussi en hiver, pas mettre de collants avec des petites tiags et une mini-jupe parce qu'on a froid d'abord. Ouais. Mais sur un tournage, on a des chaufferettes. Et donc, c'est vraiment le moment et l'endroit où on peut oser ce qu'on n'ose pas dans la vie. Un personnage, ça peut permettre ça aussi. D'un coup, je voulais qu'Héloïse, elle soit libre à l'âge qu'elle a. Elle est libre, elle se sent bien, elle met les fringues qu'elle a envie de mettre, elle se surveille pas, quoi. Il y a un côté très spontané chez elle.
En tout cas, c'est un film très, très agréable à voir. C'est le portrait, alors c'est pas toutes les mamans, si on peut, ou décrocher le téléphone, enlever la sonnerie, serait très gentil. C'est pas le portrait de toutes les mamans de trois enfants célibataires, loin de là. C'est vraiment le portrait d'un style de maman, on va qualifier de bobo.
Mais en même temps, quand on l'a présenté à l'Alpe d'Huez, par exemple, et depuis qu'on le présente, franchement, c'est toutes les mamans. Parce que, en fait, Lisa, elle a ce truc tellement sincère de parler d'une mère avec ses enfants. Il se trouve que plus elle est sincère et plus elle parle d'elle-même dans son milieu social, avec voilà, avec les conditions sociales qu'elle vit. Elle, non, plus peut, ça parle à tout le monde, en fait.
On peut s'identifier, bien sûr, absolument. Parce
elle tricherait, elle irait parler d'une mère, d'une autre catégorie sociale qui n'est pas elle, je pense qu'elle serait moins sincère
serait
et,
cliché,
ça toucherait, et ça toucherait
ouais.
moins les
ouais,
gens.
Ça sonnerait faux,
là,
ouais.
ce qui sonne tellement juste, ça sonne tellement juste parce que c'est elle. Moi-même, quand c'est loin de moi, Héloïse, je la ressentais complètement parce que Lisa l'a écrit avec tellement tout son cœur, mais comme LOL était, hein, en fait.
C'est marrant, vous parlez d'Héloïse comme quelqu'un qui existe. Ouais. Vous parlez de votre personnage comme une copine que vous venez de
elle,
déposer.
Mais moi, j'aimerais bien l'avoir comme copine, Héloïse.
Elle a été dure
mais
à
surtout,
quitter.
Surtout, pour moi,
ouais.
c'est une personne. Elle a Les été... personnages que je joue, je veux en faire des personnes. Ouais. Qu'on puisse se dire, tiens, j'ai envie de la croiser, j'ai envie de la connaître.
Elle a été dure à quitter. Parfois, certains comédiens ou comédiennes ici parlent de cette rupture quasiment amoureuse de quitter un personnage, de se bah, dire
Philippe,
que...
Philippe Catherine s'est adressé directement à son personnage.
Ouais, c'était génial, c'était d'ailleurs, drôle. Mais... Lui, il est assez génial en entier. Ouais. Oui, alors moi, c'est... Moi, ils ne me quittent pas, mes personnages. J'ai l'impression qu'ils me construisent un peu. Je garde d'Héloïse un truc de liberté nouveau, par exemple, où je garde... Mais la fin du tournage, il y a quelque chose ouais, de cet ordre-là. De... Mais c'est... on quitte à la fois les premiers spectateurs, mmh. que sont l'équipe, en fait, qui vous aident à accoucher d'un personnage, en fait, qui vous aident à y croire, qui vous aident à devenir le personnage. L'équipe, si elle n'est pas... Si elle n'est pas avec vous, c'est la merde, quoi. Parce que le Perchman, si pendant que vous faites une scène drôle, il est là et il fait... Pff, comme ça,
vous le rayon.
Ah, mais moi vraiment, je sens l'équipe avec moi, c'est gagné déjà. Vraiment.
Et de la
Donc,
même manière que vous prenez...
Quitter le personnage, quitter l'équipe, quitter
Alors,
tout ça,
Alors, de la
ça,
manière que vous prenez triste. Un tout petit peu de chaque personnage en vous, qu'est-ce que vous donnez de vous à Héloïse?
Bah de moi, oui, c'est vrai, je donne de moi mon corps, ma voix, mes gestes, beaucoup de choses et beaucoup de choses de l'intime.
Est-ce que vous, êtes,
parfois.
Vous avez retrouvé, voilà, vous avez retrouvé la maman aussi que vous êtes dans ce film, à filmer par exemple avec son portable pour garder des souvenirs?
Bah ça, on est toutes comme ça. Lisa, elle est vraiment dans l'air du temps, elle filme comme on filme toutes nos enfants. Mmh. Non, mais j'ai donné, oui, c'est marrant parce que parfois ça me perturbait. Je rentrais le soir chez moi, j'avais l'impression d'avoir joué avec une autre. Ce que je vis avec ma fille, c'était très...
D'avoir,
même
trompé,
envie
d'avoir
de...
trompé votre fille.
Ouais, mais un peu, j'avais envie de dire à... D'ailleurs, Lisa, très intelligemment, nous a tous réunis avant le tournage, les vrais enfants, les faux enfants, les vraies familles, les fausses familles, pour qu'on comprenne bien qu'on était en train de jouer la comédie quand c'était les faux et que les vrais, c'était les vrais.
C'est
quoi.
Marrant, ça, ouais.
Mais c'était pas con, parce que c'est vrai que quand je rentrais à la maison, même si c'est inconscient tout ça, on n'est pas dans la psychologie à deux francs, mais quand je rentrais à la maison, j'avais un peu l'impression d'avoir joué à nous en panou, et ça m'énervait un peu parfois. Vis-à-vis de Suzanne, je me disais, j'ai pas envie de
Votre
montrer
fille.
Ça de, ouais, de ma fille, ouais. pardon. J'avais pas envie de forcément, par exemple, quand elle a son bac dans le film et qu'on hurle, à la joie des résultats qui sont bons, moi, elle allait la voir le bac 3 mois plus tard et je me disais, j'ai pas envie de vivre ça avant. Et que quand le jour du bac va arriver, ma fille, elle pense que je fais semblant d'être super, d'être super contente
j'ai
en
répété,
vrai. Quoi.
Ouais.
Donc j'avais des trucs comme ça de que j'ai donné au personnage, mais que je mettais un point d'honneur à rappeler à Suzanne.
Et Suzanne a eu le bac.
Ouais.
C'est pour ça que vous avez demandé au Perchman de revenir pour prendre le son à ce moment-là. Pour
non,
le bon
mais
cri.
C'est vrai que le jour du bac de ma fille, j'ai pas filmé parce que je me suis dit, je veux le vivre avec elle.
C'est fort, ouais, ouais. pour que ce soit gravé dans votre mémoire ouais. plus que dans le numérique du ouais. téléphone.
Son ça père s'appelle. C'est chargé de le. De ah, filmer
y
a, la fin.
Il y avait toute une équipe derrière quand même. Oui, c'est
non,
ça.
Non, son père, a, ouais, contre toute attente, a filmé la fin. On a Et un petit drone. Bout, mais je voulais pas filmer.
Mon bébé, c'est au cinéma, c'est oui. drôle, c'est touchant. Non, je parlais quand je dis mon bébé, ah, c'était du film. Je sais pas.
Ouais. Pardon, excusez-moi.
Il se regarde.
Non, c'est drôle, c'est touchant, et puis c'est tellement dans l'air du temps, et puis ça va rassurer beaucoup de parents aussi dans leur.
Ça fait pleurer les garçons aussi. Mais il y a plein de mecs à la fin du film qui...
Ah bah, y a des
Alors contre tout, ouais, moi je m'y attendais pas du tout. Mais des pères qui d'un seul coup se disent « Ah ouais, non d'accord, ce qu'a fait ma femme quand je l'ai quittée, c'est du taf quand même. »
Ah donc il y a que des mecs...
Non, des prises de conscience.
Il y a que des mecs qui payaient pas leur pension alimentaire.
Il y a ceux-là, mais c'est vrai qu'il y a ceux-là.
Tous les hommes n'ont pas quitté leur femme.
Et ceux qui n'ont pas quitté leur femme qui disent « Je vais pas la quitter avant que nos enfants aient 18 ans, je voulais la quitter, mais je l'attends. » Je vous jure que j'ai eu ça comme réflexion atroce. Mais aussi, ma fille est toute petite, faut que je m'en occupe plus. Oui, des prises de conscience, quoi.
Et puis alors des papas qui se comportent comme le personnage d'Héloïse, qui sont vraiment des papas poules, qui se sacrifient presque.
Des pères qui se reconnaissent en ouais. Héloïse et qui sont maintenant, il y a des pères regards partagés qui ont autant de...
C'est sur le même ressort que LOL, c'est-à-dire la communication qu'il y a entre les adolescents et les adultes aussi. C'est évidemment ce même...
Non, puis Ça même parle aussi de la séparation et qui n'en a pas vécu à nos âges pourtant très jeunes.
Mais on rit beaucoup aussi. Ce mercredi donc au cinéma Tom Villa, ça va être un succès.
Ça sent le gros succès, surtout auprès de tous ces parents angoissés à l'idée de se retrouver tout seul après le départ du dernier enfant. C'est vrai que c'est plein d'émotions quand on se place de votre côté, alors que clairement si on se place deux minutes du côté des jeunes, bah c'est... Ah si, c'est plus ça. Non mais c'est vrai, en fait les parents et les enfants ont vécu des émotions miroirs un peu. J'ai l'impression d'être Marcel Ruffaut. Non mais miroir parce qu'on vit les mêmes émotions, mais en moins chauve. Miroir parce qu'on vit les mêmes émotions, mais inversées. C'est-à-dire que les parents, quand on part, ils chialent, mais au bout de 15 jours c'est la fête, ils ont retrouvé leur liberté. Alors que les enfants, ils partent, c'est la fête, mais au bout de 15 jours, ils chialent. De ravioli en boîte, de lessive ratée, c'est normal. Au début on est heureux, tu sais, c'est fini, tu rentres à quelle heure, quand tu rentres, tu feras pas de bruit et tu retires tes chaussures parce que ça fait craquer le parquet de l'entrée. Non, quand tu rentres dans ton vrai chez-toi, il est 3h du matin, tu t'en fous complètement de faire du bruit ou pas, t'es bourré, tu mets de la musique très fort, tu danses tout seul au milieu de ton salon, puis vers 3h15, il y a le voisin qui sonne chez toi, et après un petit coup de pression et un bon coup de boule, tu dis, en fait, elle était sympa, ma mère, quand même. Hein? Je sais que les parents se font toujours du souci, savoir si on arrive à gérer tout le quotidien, le ménage, la vaisselle, les lessives. Alors j'en profite, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, pour les rassurer. Oui, vos enfants s'en sortent très bien. Le ménage, la vaisselle, ils le font pas. Donc pas de stress par rapport à ça. Et soyez pas stressés, vos enfants, ils partent.
Et les courses, qu'est-ce qu'ils mangent? Moi, je me demande toujours, mais qu'est-ce qu'elles
mangent? Est-ce qu'ils mangent?
C'est ça la grande question. Mais faut pas être stressé parce que vos enfants, ils partent. Mais bien sûr qu'ils vont revenir pour faire leur lessive. Si le dimanche midi, t'es maman, tu dois faire le poulet, mais aussi pressing. Et ton fils, il revient, il y a 3 sacs de sport en pierre à bord. Tu l'ouvres, sa pute, t'as de quoi repousser une manif de gilet jaune. Et elle a 3 heures pour laver, sécher, repasser. Même à Fort Boyard, les épreuves, elles sont moins pervers. Non, mais c'est vrai. Parce que, contrairement au film, on va se mettre du côté des enfants qui partent. Quand tu partes chez tes parents, faut pas croire, c'est un choc terrible aussi. T'arrives dans ton premier appartement, le clic-clac, tu l'avais jamais utilisé, t'as perdu un boulon dans l'éménagement, tu t'es dit, c'est pas grave. Du coup, le bordel, il est à moitié coincé. T'as les jambes en hauteur, on dirait que t'as un lit d'hôpital et que t'as les jambes lourdes. T'as la table basse IKEA, tu sais qui te sert de table basse, de table de bureau, de planche à repasser, d'escabeau, de repose-pied, de pouf. Vous la voyez cette table basse, tu sais, à 6,99€. Quand tu l'achètes, tu dis putain, c'est une bonne affaire. Puis quand tu l'as, tu dis je me suis bien fait niquer parce que une table à 7€, ça n'existe pas. C'est un carton avec des pieds. Puis toi, t'as ton premier chez toi, tu fais une pendaison de crémaillère. La pendaison de crémaillère, c'est quand t'as une vraie maison en fait. Toi, t'as 17 mètres carrés, t'as invité 36 personnes, même la ligne 13 à 8h du matin, t'as plus de place. Et en 2 heures, les toilettes, elles sont bouchées. Il y a 2 vomis, il y a 3 coups de sonnette des voisins et un des flics.
Oh, le vécu, tout ça.
Et il y a un mec qui fait tomber son coca par terre, mais il les suit pas. Et c'est pas que ça colle, c'est carrément un piège à insectes. Et il est 6 heures du matin, tout le monde est parti, ton appart, c'est le zoo de Beauval. Et là, il n'y a pas ta mère pour ranger. Non. En plus, chez tes parents, il y a tous les produits, le Carolin, le Saint-Marc, la Jacques-Vide. Toi, le seul truc que t'as, c'est du sopalin, mais il a été fini pendant la soirée. Du coup, tu laves tout à l'eau chaude avec l'éponge qui te sert aussi pour faire la vaisselle et t'essuies avec du PQ. Non, mais c'est vrai. Alors bon, enfin, on en a une grosse pensée aux parents, évidemment, qui voient leurs enfants partir, mais aussi une pensée aux nouveaux adultes. On n'a pas tous fait notre service militaire, mais vivre dans un trou sale et bouffer des conserves, on connaît aussi. Allez, bonne émission.
Merci Tom Villa.
Midi, la bande originale.
Le film avec Sandrine Kiberlin, également Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Michael Lumière, Camille Clarisse, Kian Kojandi, Arnaud Valois, Patrick Chenet, Yvan Attal. Alors on sait que Thaïs Alessandrin est la fille d'Elisa Azuelos. Est-ce que Victor Belmondo est de la famille
Alain Delon?
Son petit-fils.
Son petit-fils, d'accord. Et Michael Lumière est
de la famille
de Louis.
Je
n'avais
pas pensé à ça. Oui.
Le film a remporté 2 prix au festival du film de comédie d'Alpe d'Huez, grand prix pour Lisa Azuelos et prix d'interprétation pour Sandrine Kiberlin, avec des compliments de vos consoeurs. Tout ça, ce sont des éléments, des événements qui touchent les prix, les messages.
Oui, bien sûr.
Vous avez déjà des Césars, vous avez déjà la reconnaissance de vos pairs. Donc, est-ce qu'on est encore émerveillé de ces prix?
Ouais, il y a plusieurs étapes en fait. Il y a les premiers qu'on reçoit qui sont vraiment ceux qu'on attendait, qu'on espérait, parce qu'on a tellement peur de pas être l'élu on est si nombreux à être appelés si peu d'élus. Donc quand ça arrive et quand on est accueilli comme ça, c'est les plus beaux prix. Moi, je dis toujours que le César de l'espoir, c'est quand maintenant je suis marraine de ceux qui sont nommés. Et c'est marrant parce que ceux qui me choisissent comme marraine sont ceux que je préfère. C'est super mignon parce que c'est comme quoi on se reconnaît.
Il y a un vrai passage au relais.
Ouais. Et c'est très émouvant ce moment d'ailleurs quand on est marraine des révélations là. Parce que c'est un moment où ils entrent dans ce qu'ils rêvent de connaître.
Vous avez été marraine de qui là récemment?
Alors, j'ai été marraine de Swan Arlo, par exemple. J'ai été marraine de Laetitia Deutsch. Ouais. J'ai été marraine de, du petit Thomas Joria qui joue dans, dans Jusqu'à la garde.
Et à l'inverse, ça donne pas un coup de vieux de se retrouver marraine de comédienne,
tout,
de comédienne
non, non, pas du tout.
Le César d'honneur.
Ça
tout
dépend
ça.
Comment on se sent.
Non, mais
je me sens très jeune.
Mais vous l'êtes.
Je suis encore un espoir pour certains. Et pour moi-même.
Une révélation pour d'autres.
Et une révélation, merci. Donc, non, non, pas du tout. Mais on a l'âge qu'on a envie d'avoir, hein, franchement.
Oh, ça dépend. Hein.
On a l'âge qu'on absolument, ressent. Ouais. Moi, je me sens parfois très, très vieille avec des très, très jeunes parce qu'ils ont eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils sont très, très vieux dans leur tête. Donc, d'un seul coup, ça me pèse et j'ai l'impression qu'on est en, entre...
Non, vous êtes une gamine avec de l'expérience.
Voilà. Ça, ça me va très bien.
C'est pas mal, ça.
C'est pas mal, d'ailleurs.
On la garde.
Voici Jérémy Crémville.
Oh, asseyez-vous. Bonjour à tous. Bon, en tout cas, je suis super content de revenir, moi, après une semaine de vacances. Si j'étais un épagneul, je remuerais la queue. Mais je suis lillois. Non, parce qu'il y a deux semaines, j'étais colère. Je vous jure. On aurait dit Mélenchon un jour normal.
Qu'est-ce qu'il y avait ?
Impossible de partager ma chronique radio parce qu'on n'avait pas d'image.
Quoi ?
Vous vous rendez compte ? Pas d'image à la radio. C'est... Bon, on appelle ça de la radio. Non, mais c'est con. J'ai pas pu mettre ma chronique sur internet alors qu'elle était bonne. Je vous jure, ma chronique c'était Shaim.
C'est elle arrivé,
était...
c'est vrai.
Ouais, vraiment. C'est très frustrant de réussir quelque chose et que personne ne le voit. Non, c'est vrai, presque autant que de rater quelque chose et que tout le monde le voit.
Ouais, c'est ça. Ah,
là, c'est bien pire, placé ça. Pour en parler, je suis là tous les lundis. Ah, mais je peux vous dire que cette année, les chroniques dont je suis fier se comptent sur les doigts d'une main et encore une main de gilet jaune qui aurait eu la mauvaise idée de ramasser une grenade de désencerclement. Mais, là, quand il porte plainte au commissariat, il dépose un moignon courant. Ouais. Bon, alors, rien à voir, mais moi, attendez, quand j'étais petit, je croyais qu'une main courante c'était la chose dans la famille Adams.
Ah oui. Mais,
bref.
Ah, oui, la chose.
Parfois, ouais, j'ai l'impression que l'univers nous parle et qu'il nous dit. Toi, j'ai envie de te faire chier. Oui, il a une voix bizarre,
oui,
l'univers.
Il est vieux. Hein.
Ouais. Non, mais il y a des jours comme ça où ça veut pas. C'est le jour où ton téléphone ne doit pas sonner qu'il sonne en pleine émission. C'est quand t'es en retard que t'as tous les feux rouges. C'est quand t'as repris deux fois du chili con carne que la personne qui en a repris trois fois est passée aux toilettes avant toi. En plus, mais ouais, en plus depuis le début de l'année, on n'a vu aucun problème avec les vidéos, vraiment aucun. Alors je ne sais pas si c'est de la malchance ou juste un hasard cet incident technique, mais le résultat final est le même que pour l'anecdote du chili. J'en avais plein le cul. Je vous le dis. Et mes camarades, bonsoir. Et mes camarades seront d'accord avec moi, c'est très important que les vidéos de nos chroniques soient mises sur Internet. C'est la seule solution pour que les gens pourquoi puissent nous insulter sans avoir à se déplacer jusqu'à la maison de radio. Et là, j'avais enfin la vidéo de la vengeance. Non, rien. Silence radio, noir vidéo.
Mais ce qui n'a pas marché, c'est la vidéo de là.
Ouais, la vidéo de là.
Sandrine, bonjour.
Bonsoir. Non, mais moi, ça me rappelle toutes les fois où je réussissais un truc et au moment de le faire, quand je voulais le montrer, ça marchait pas. Regarde maman, je sais faire l'équilibre. Ah merde. Oh.
Oh. Tu ramasseras tes conneries, abruti.
Oui, ma mère fumait énormément. Elle aime tellement fumer qu'elle veut être incinérée, mais de son vivant.
Oh.
Après,
ah, si, c'est bon.
Après, je dis qu'elle était bonne.
Oui.
Ma chronique, hein, je parle plus de ma mère. Je dis qu'elle était bonne, mais si je prends quelques extraits, ça donne ça.
Il faut savoir que dans les grandes villes, à cause des embouteillages... Et je sais pas vous, mais moi je pense que j'ai lâché toutes les insultes possibles et imaginables en voiture. J'ai déjà...
Non mais attends, mais c'est dingue. On voit que ma langue prend des RTT en pleine chronique. C'est fou ça. Il y a 10 000...
T'embrassé Guillaume Ouiz, quoi.
Je sais pas, on s'est côtoyé. Non mais c'est fou, il y a 10 000 80 minutes par semaine. Et sur les 10 000 80 minutes, elle me fait faux bond durant les 3 minutes où j'ai le plus besoin d'elle. Mais... Enfin non, il y a 2-3 minutes durant lesquelles j'ai besoin d'elle, mais on rentre dans l'intimité.
Non.
Je dirais même dans l'intimité de ma femme que je salue. Ma femme, qui est orthophoniste, au passage.
Oui.
Voilà, chaque semaine, je lui rends hommage
elle
à ma manière.
Elle a pas fini sa formation.
Non, mais je lapsus et elle ne lapsus plus. Bref. Pour éviter de bafouiller, je l'embrasse. Voilà. Pour éviter de bafouiller, je pourrais vous lire chaque semaine un extrait de l'autobiographie de Hodor de Game of Thrones. Elle est vraiment sortie. Hodor, c'est un personnage qui s'appelle Hodor et qui dit que Hodor. Extrait choisi. Hodor. Voilà, vous voyez, là, il n'y a plus de problème. Mais vous savez, si je bafouille à l'antenne, c'est justement parce que j'ai peur de bafouiller. C'est quand on a peur d'un truc qu'on pense à la possibilité de ce truc et donc qu'on
il
fait
arrive.
Ce truc.
Bah ouais.
Ah ouais, non, mais c'est stupide.
Je suis d'accord.
La peur de l'échec me fait échouer. J'ai peur d'être nul, donc je deviens nul. Et du coup, je me dis, tiens, est-ce que Sandrine Kéberlin avait peur d'être talentueuse pour l'être autant? Est-ce que Daniel Morin avait peur d'être chauve? Est-ce que Nagui avait peur d'être riche? On ne sait pas. En tout cas, moi, pour revenir dans le game et faire des vues aujourd'hui, j'ai une solution radicale. Je vais donner un titre racoleur à ma chronique. Jérémy Crédeville montre son sexe en pleine chronique. Ça sonne bien. Et ça va faire des vues, regarde. Je vais le faire. De toute façon, je tiens toujours mes promesses. Alors, éloignez les gosses.
Ouais.
Parce que, voilà. Jérémy Crédeville montre son sexe en pleine chronique.
Bim!
Je sais que ça fera des déçus.
Si.
Mais je ne baisserai pas mon froc, même pour des vues.
Merci, Jérémy Crédeville.
La bande originale. Lady. sur France Inter.
La bande originale justement de ce film, Mon bébé. Extrêmement bien choisi et composé spécialement pour le film, c'est Yael Naïm qui fait cette chanson qu'il a interprétée, A Part of Us, parce qu'il y a cette légèreté, il y a le rêve, il y a l'évasion, il y a la mélodie, l'harmonie.
En fait, quand elle a vu le film, Yael, quand Lisa a voulu que ce soit elle qui fasse la musique, elle a dit que c'était une nostalgie joyeuse, c'était comme une saoudade. Et donc elle a fait une musique dans cet esprit, elle avait compris tout le film évidemment.
Et puis elle est lâchée prise de celle qui redevient Gamy le temps d'une soirée.
Voilà. Camille Larousseau.
Voilà, mais ça fait son effet, hein. Tout le monde dans la salle.
C'est incroyable comme ça pouvait être extrêmement ringard à un moment en fait, et devenir presque génial, culte aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voulez mettre l'ambiance dans une soirée,
et ça marche. Et
ça n'a jamais été ringard.
Moi,
je n'ai jamais été à la mode non plus.
Ça, c'est vraiment Lisa, hein. C'est les passions de Lisa, ça.
C'est vrai?
Ouais.
Pas les vôtres, vous voulez dire?
Ah si, j'ai pas forcément pris le poil, mais c'est du même ordre. Hein.
Et puis, hein, aussi... Hein.
Ça,
c'est vous qui faites une impro rap.
Ouais.
Ça donne quoi?
C'est le hip hop, the hip, don't stop, the hip hop. Je l'ai fait mieux dans le film.
Ah ça, quand t'as du talent. Hein. tu sais tout faire.
Ouais, plusieurs cordes à mon arc.
Non. On va parler de la musique que vous aimez, que vous écoutiez, par exemple dans les années 70. Sandrine Kiberlin, écoutez.
Je restais seule dans ma chambre.
Joie,
la patate.
Adolescence.
Ouais. Mais ça vous va tellement bien, Françoise Hardy. Mais ça vous, mais même Françoise Hardy, ce qu'elle non, dégage,
son
charme.
Puis c'est un album sublime, un message personnel. Je pense que c'est un des plus beaux albums français.
Elle vous adorerait, hein, c'est sûr.
Ce message personnel avec une chanson entièrement écrite par Michel Berger, sauf le texte de début que Françoise Hardy a écrit pour se l'approprier.
Ouais, c'est beau,
justement.
Et ça, c'est une chanson qui s'appelle Première rencontre.
Et vous avez grandi avec ce genre de musique à la maison?
Oui, mais parce que
qu'est-ce que vous avez comme image à écouter, François Hardy?
J'étais plutôt une ado mélancolique, moi. Hein. Et donc, je me sentais comme moins seule avec François Hardy.
Dans les années 70, vous êtes née dans les années... Enfin, oui, c'est ça, dans cette période-là.
Les débuts...
Voilà,
milieu.
Là-bas.
Non, mais finalement, pourquoi on a besoin de savoir une date de naissance, on s'en fout.
Elle est née à 25 février.
Elle est née à 25 février, voilà. Et j'aimerais, moi, qu'on parle aussi de l'environnement familial. Il y a une histoire hyper troublante concernant votre père et votre mère, leur rencontre, et surtout lorsqu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils viennent d'un endroit assez proche.
Ah oui, ils sont tous les deux nés de parents juifs polonais qui étaient des villages presque voisins.
Ouais.
Mais ils se sont connus à Paris et des années plus tard. Mais mes quatre grands-parents sont arrivés en France en 1933, ouais, et ont quitté la Pologne. Enfin, ils n'ont pas voulu la quitter, mais on les a expulsés en 1933. Ouais. Ils ont fui la Pologne en 1933. Ils ont quitté parents, frères, sœurs, qui sont tous morts là-bas. Et eux sont arrivés, je crois qu'ils avaient entre 16 et 18 ans à Paris, sans parler le français. Ils ont construit toute leur vie.
Et amoureux du théâtre, tous les deux.
Et mes parents, se sont connus dans l'école qui s'appelait... L'école des cadres, merci. École de commerce. Et mon père avait créé un cours de théâtre. Et il faisait des mises en scène et il avait choisi ma mère... pour jouer sa fiancée, alors que lui jouait rarement dans les pièces qu'il mettait en scène, mais là il avait joué le fiancé. Et un soir, elle me raconte qu'il dansait avec un vase trop grand comme ça, et qu'elle l'a trouvé très drôle, et qu'elle a fini par danser avec lui, et ils ne se sont plus quittés pendant 37 ans.
C'est beau!
C'est joli. Enfin, à la base, elle a été prise pour un vase quand même au début. C'est pas très bien.
Il était ivre. Il était ivre.
Oh, lui aussi.
C'était moi le lampadaire.
Mais il était très drôle. Je comprends qu'elle est.
Qu'elle soit tombée sous son charme.
Ouais.
Et le théâtre, nécessairement, c'est devenu quelque chose d'assez familier dans l'univers, dans...
Ouais, en fait, je pense que mon père s'est jamais vraiment réalisé là-dedans, parce que fils de parents inquiets qui ont tout construit en France et qui ont eu une belle vie contre toute attente, mais qui ont voulu des études très sûres pour leurs enfants. Et puis mon père, c'est le virus l'a rattrapé, puisque vers 50 ans, il s'est mis à réécrire et il m'a écrit une pièce, en fait. qui m'a envoyé et je l'ai lu et j'ai voulu tout faire pour qu'elle se monte. Mm-hmm. Et on a eu la chance de la jouer, c'était ouais. un succès. Il a eu un, j'ai eu un Molière, il a été nommé au Molière comme pour sa meilleure pièce. Et puis,
ça pour une. Pour, alors on parlait tout à l'heure des rapports mère-enfant avec mon bébé, mais j'imagine que le rapport fille-père dans ce genre de situation-là doit être totalement bouleversant.
Complètement, complètement. Mais bouleversant avant aussi qu'il écrive. Hein. On avait un rapport très fusionnel. J'étais le genre à danser sur ses pieds, vous voyez.
Je vois, je fais pareil.
Voilà, donc on a eu le temps de s'aimer, de se le dire, de profiter, de jouer une pièce écrite par lui. C'était un rêve, à la fois c'était inimaginable, quoi. C'était un truc de fou de voir que le succès est arrivé en même temps. Enfin, tout était génial. Jusqu'à ce qu'il meure, ça c'était beaucoup plus triste évidemment et trop tôt. Mais
Est-ce que pour vous il est toujours, il vous voit toujours jouer, interpréter, produire quel...
Bah il est comment dire.
Vous vous dites quoi? Il y a une étoile au-dessus de moi qui me suit, qui me protège, qui me regarde.
Il est avec
moi,
il est ouais. avec ma mère. Ma mère elle est là, on est super ensemble avec ma sœur. On est une famille très soudée, on est très famille. Ma nièce, ma fille, on est beaucoup de filles maintenant.
Et en parlant de lui, il est toujours là. C'est
mais
ça
il est archi là.
La preuve.
Il était devenu le meilleur ami du père de ma fille. Enfin, je veux dire, on est très, voilà, c'était très, très fusionnel tout ça.
En 96-97, vous écoutiez Julien Clerc avec La fille de la véranda.
La fille de la véranda, je n'ai vu qu'une fois. La fille de la véranda, que je n'ai vu qu'une fois.
Ça arrive.
96-97, Sandrine, c'est un César et un Molière de la révélation. Deux années hyper joyeuses, lumineuses. Qu'est-ce que vous en retenez après coup? Est-ce que c'est juste le palmarès qui fait ces deux années ou il y a
non,
une
mais
autre sensation?
Ouais.
C'est le roman de Lulu déjà, ce dont on parlait.
C'était le roman de Lulu, ouais. C'est pour ça que j'ai choisi Julien Clerc. Parce que Julien Clerc, c'était vraiment toute mon enfance et mon adolescence. Mes parents écoutaient que ça, on est allé le voir je sais pas combien de fois sur scène. Enfin, ils étaient. Ma mère trouvait qu'il avait des très jolies fesses.
C'est
en
vrai.
Plus d'être un sublime chanteur
c'est vrai.
Dans R.
Et au moins, elle est honnête, elle dit ce que les filles nous oublient de dire. Les filles regardent les fesses
non,
des
garçons. Non, mais on n'oublie pas.
Et
hein.
nous,
mais
on,
vous ne le dites pas beaucoup.
Et on était d'accord avec elle. et on l'a aimé et on l'aime toujours d'ailleurs. Et non, mais ces années-là, c'est les débuts pour moi, vraiment. C'est la confirmation que j'allais faire ce métier et en vivre, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est les premiers prix, les premiers. Mais c'est pas vraiment les prix, c'est les premiers vrais contrats, les premiers rôles qui comptent, les premières vraies rencontres avec des metteurs en scène.
Être fan d'un artiste, de voir un artiste se produire sur scène et la petite fille qui a vécu ça, puis. Celle qui ensuite écrit des textes pour Johnny Hallyday, c'est une chance, c'est un truc incroyable. Ça serait écrit dans un roman, on dirait, mais non.
C'est trop.
C'est pipeau, ouais, c'est trop.
Bah ouais, mais en même
vous
temps...
Vous vivez ça comme une chance, comme quelque chose d'incroyable?
Non mais bien sûr, qui m'est donné ces chances-là, mais en même temps, je vis tout ça comme des rencontres, en fait. La vie est faite que de rencontres.
D'autant que c'était Johnny qui a demandé un texte de votre
main.
Oui,
on s'est rencontrés, on a fait un film ensemble, il était acteur dans le film, il était plus impressionné que moi, c'était le monde à l'envers, enfin c'était hyper mignon.
Il a toujours eu le trac,
Johnny. Il a toujours voulu être acteur. Ouais. Il assurait et il était très impressionné par le cinéma et on s'est rencontrés, voilà, ça aurait pu ne pas matcher, ça a matché, on s'est vraiment apprécié et après
et
voilà,
la chanson,
il m'a demandé d'écrire ça.
Bah oui, au bord des routes.
Et, moi, je l'adore. Ils sont bien comme moi, la musique est géniale.
Qui est connu le chaud, qui est connu le froid.
On a demandé à Geneviève Giannati, bonjour Geneviève,
bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute de couple et de famille. On vous a demandé de venir à ce micro pour évoquer justement ce qu'il y a dans ce film. C'est le moment, ce fameux moment où les enfants s'en vont et laissent les parents ou laissent la maman en l'occurrence. D'abord, il a un nom ce moment, c'est quoi?
Oui, ça s'appelle le syndrome du nid vide.
On appelle ça comme ça. Ouais. C'est le moment où les enfants s'envolent et ne vont pas revenir habiter à la maison.
On croise les doigts.
C'est une délivrance pour toi. Ouais.
On verra pour Tanguy, c'est dans un mois ou deux que le film arrivera. Mais ce moment-là, lorsque, en l'occurrence, Héloïse, le personnage joué par Sandy Kiberlin, a trois enfants, n'est pas le même lorsque c'est le premier qui parle, lorsque c'est le dernier. C'est vraiment le nid vide, c'est le dernier qui est plus important.
Il est vraiment vide et il n'y a plus d'enfants à la maison pour occuper le temps, parce que c'est une occupation, un enfant. C'est pas seulement le principal, c'est pas l'occupation, on va s'en apercevoir après. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit avec eux, l'histoire qu'on construit avec eux. Et puis au moment où ils partent, d'un seul coup, dans le film, elle regarde le lit qui est vide et puis le départ, bien
sûr. C'est une dépression.
C'est pas une dépression, non. Moi, je dirais pas que c'est une dépression. Ou en tout cas, si c'est une dépression, c'est une bonne dépressivité. C'est-à-dire que ce que Sandrine disait de Yael Naïm, qui disait la nostalgie joyeuse, il va y avoir une nostalgie triste à ce moment-là. Et la nostalgie joyeuse doit pouvoir revenir. Mais c'est comme le moment, hein, dans la séparation, là, où on ferme la porte d'une certaine manière. C'est comme un saut dans le vide. D'ailleurs, c'est très bien métaphorisé dans le film. C'est comme un saut dans le vide, mais on n'a pas le même horizon, on ne va pas atterrir sur le même terrain. Et il y a une séparation.
Et il y a des parents qui culpabilisent aussi un tout petit peu leurs enfants, disant « tu m'abandonnes, tu me blesses
». Oui, on se connaît.
Culpabilise. Lila, tu veux parler?
Oui. Je dis toujours à mes patients, on ne se fait pas culpabiliser, on se culpabilise soi-même.
On prépare le terrain à ça, vous voulez dire?
Voilà. Ouais. Y a, c'est-à-dire qu'on prend, d'une certaine manière, ce que les parents disent, en fonction de ce qu'on va avoir vécu avec eux aussi. C'est-à-dire, on va l'entendre comme culpabilisant ou pas. On entend ce qu'on veut. C'est en fonction de la relation qui était là avant.
Est-ce que j'évoquais la suite de Tanguy? Alors, Tanguy Pastureau déteste le film Tanguy, évidemment. Ouais. On en parlera avec Étienne Chatiliez. Mais est-ce que c'est un phénomène aussi de économique et social d'enfants qui reviennent parce que au chômage, parce que pas moyen de payer le loyer, qui reviennent à la maison au-delà de leurs 25-30 ans?
Actuellement, c'est très très courant, surtout en région parisienne où les loyers sont complètement exorbitants. On peut plus pratiquement accéder si on n'a pas 4 fois le montant du loyer, enfin, ouais. Bon, il y a des choses comme ça, mais je crois que ce qu'on entend, c'est que les enfants ont toujours envie de se séparer de leurs parents, même s'ils vivent quasiment sous le même toit. La question est différente pour les parents et pour l'enfant qui revient. L'enfant qui revient, il a envie de vivre sa vie, et les parents ont souvent envie de refaire ce « on » commun, cette symbiose là est chouette. Ouf, il est parti,
chic,
mais chic, il revient quoi. Voilà,
et c'est encore plus dur quand
ça, ouais. c'est côté parents,
et c'est encore plus dur quand c'est des parents séparés, parce que on se retrouve pas à deux, on se retrouve vraiment tout seul.
Ce qui est difficile quand les parents sont séparés au moment de la séparation, c'est l'idée que on va pas pouvoir partager avec quelqu'un ce qu'on ressent. C'est au niveau des émotions, au niveau du langage, au niveau des représentations que l'on croit communes et qui ne le sont jamais, mais ça fait rien, on le croit. Donc on croit vivre la même chose et là on est seul pour le vivre.
Dernière question, puisque le film s'en sert beaucoup de ce téléphone, de ce smartphone, ordinateur, caméra, est-ce que ça change beaucoup? On dit que c'est un doudou, ce téléphone, dans ses rapports avec le direct que l'on peut faire, le FaceTime que l'on peut faire ou autre communication avec ses enfants qui s'en vont. Et avec ces petits films que l'on garde, ce que nos grands-parents ou nos parents n'avaient pas forcément.
Oui, mais ils avaient les souvenirs, peut-être beaucoup plus. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est la mémoire qui fait qu'on va partager, que dans les repas familiaux, on va reparler de « tu te rappelles quand ?» et qu'on va rééchanger. Enfin, moi, je crois vraiment, c'est mon métier, au pouvoir de la parole et du langage, et c'est ce qu'on échange, et après, mais non, c'était pas comme ça, mais si, c'était comme ça, on rééchange des histoires, on les transforme ensemble, et ça, c'est extrêmement important.
Votre dernier ouvrage s'appelle « Attends, dépêche-toi », deux injonctions contradictoires que tous les enfants ont déjà entendues, évidemment.
C'est les mots qu'ils entendent le plus avant l'âge de 8 ans.
« Attends et dépêche-toi ». C'était publié
Chez l'Archipel, et maintenant, oui, chez l'Archipel.
Chez l'Archipel. Merci Geneviève.
Je vous en prie.
Merci beaucoup Geneviève Genati d'être venue à ce micro. Tanguy, oui. Pas le film, Tanguy Pastureau, le nôtre.
Oui, le vôtre.
Vous aimez Jack Lang.
Ah oui, je l'adore, je voudrais être comme lui quand je serai jeune. Parce qu'il a avalé le lapin Duracell, il est à fond, moi je l'ai plus vu dans ma vie que ma mère. Hein, c'est une star tellement ultime que les marques lui offrent ses fringues. 200 000 euros de costard Small Tour en 5 ans. Il a eu, moi sur la même période, on m'a offert un Pulsélio.
On en parle après l'info de midi. C'est la bande originale, oui. On est ravis de vous retrouver avec
les
acteurs.
Bonjour
Daniel Morin.
Et bonjour Magui.
Tom Villa. Bonjour. Tanguy Bassureau. Bonjour. Jérémy Crédville. Bonjour. Et pour bien redémarrer, l'excellente Sandrine Kiberlin.
Bravo. Le Père Noël est une ordure.
Sandrine, qu'est-ce qui se prend toi?
C'est ressoufflé. Moi qui ai marqué le plus de temps, je vous rappelle à l'interro encore une fois, je dis ça, je dis rien et demain je pense que je vais mettre
une heure de retard.
On avait redémarré l'émission.
Pas une heure de retard. Sandrine Kiberlin qui est à l'affiche de ce film Mon Bébé.
L'affiche, pas l'affiche.
À l'affiche de ce film Mon Bébé.
Elle n'a pas le droit à l'erreur.
Non, ici, tu ne peux pas savoir.
On est habitué à l'excellence avec Maggie.
C'est vrai. Témoigneur est très maltraité.
C'est gentil. Avec Thaïs Alessandrin, ce film de Lisa Azuelos, film qui a reçu deux prix, celui pour Lisa Azuelos en tant que réalisatrice et
en
celui...
tant que pas en tant que
ah mais c'est une très jolie ville
et celui d'interprétation pour Sandrine Kiberlin avec ce film qui sortira le 13 mars prochain dans deux dodo c'est bon là j'articule
super
bien.
Bravo. Super bien
mercredi
on va te donner une gommette
et non et on sent un vrai plaisir mais qui est communicatif dans ce film vous qui jouez cette maman avec ses trois enfants qui voit partir alors les deux premiers c'est plus détendu alors je sais pas parce que garçon parce que grand on est moins inquiète mais c'est la petite dernière c'est pas pareil. Elle, il n'y aura plus
mais
personne.
Justement, parce que les deux premiers, il reste le deuxième, et puis après, il reste la dernière, et puis après la dernière, il ne reste plus personne.
C'est le vide.
C'est pas la même sensation.
Et
comme
puis
je
la
dis
dernière,
dans le film.
La dernière va partir loin, vraisemblablement. C'est
et la dernière,
ça.
elle est prise au Canada, et donc il y a aussi la distance. Mmh. Mais je pense que la distance, c'est tous les départs de dernier sont flippants. Enfin, c'est une nouvelle étape, quoi. On peut l'envisager à la fois flippante et comme une ouverture vers autre chose. Mais c'est une étape.
Et pire que tout, la petite dernière, ça veut dire, elle est toujours soupçonnée d'être chouchou. Le petit dernier ou la petite dernière, en tout cas.
Oui, Lisa, elle parle de ça dans le film. Elle parle de la fratrie, évidemment, d'être au milieu, le premier ou le dernier, c'est pas pareil. Mm. D'arriver en premier, on est souvent un peu l'enfant roi. Et puis en deuxième, celui du milieu, il se sent toujours un petit peu, je sais pas, celui du milieu, au milieu.
Mais souvent ça donne des délinquants, souvent.
C'est vrai. Les généralités atroces.
Non, mais
dans le film, en tout cas, elle est au milieu et elle dit, moi, tu me filmais pas, moi, t'en as eu rien à faire quand je suis partie. Et je lui dis dans le film, mon personnage lui dit, mais toi, t'étais pas la dernière. Et c'est vrai que le film traite de ça, du vide. Les enfants, ça fait beaucoup de bruit, hein. Ça prend beaucoup de temps. Lisa dit, c'est un vrai boulot, quoi. C'est un boulot à plein temps. Donc, on organise tout autour de nos enfants.
Et une maison sans enfants, quand
ils
ont été là.
C'est une maison qui change totalement. C'est un bruit, le lit vide, peur, la chambre vide. Qu'est-ce qu'on va faire de la chambre? Est-ce qu'on la garde en chambre? Est-ce qu'on en fait quoi?
Un bureau.
Non, mais il y a mille questions.
Et encore, vous vivez comment? Vous le vivez comment? Parce que votre fille a eu le bac.
Ma fille a eu le bac avec la mention très bien.
Voilà.
Félicitations.
Je ne sais pas si elle est partie ou si elle va partir.
Elle va partir incessamment sous peu. Elle nous le fait bien sentir.
Ah ouais.
Ah oui, il y a des effets spéciaux.
Applaudissements. Elle est sur le point de partir, on va dire. Ah oui. Donc je vis complètement.
Elle a vu le film ou pas?
En parallèle, le film. Elle a vu le film. Elle pense qu'elle revoit. Vraiment, hein, c'est pas super. Comme ça à tous les coups.
Non.
D'abord, elle les voit pas tous et en plus elle a pas envie de les revoir tous, mais là elle veut les revoir et elle veut avec des copains. Enfin bon, on sent que ça.
Il y a beaucoup de situations extrêmement drôles. On parlait tout à l'heure du moment où vous êtes en jeu de séduction avec Ken quand j'en dis à table. Il y a le moment aussi où vous restez seul justement dans l'appartement et vous continuez de parler seul à vous énerver. Ouais. Ça c'est extrêmement drôle parce
l'ingratitude des enfants.
Ouais. Quand on supporte pas quand ils sont injustes les enfants. On les aime à mourir mais quand ils sont injustes c'est qu'on passe notre temps à les écouter, à les entendre, à les choyer, à les dorloter, à les aimer.
Et qui s'en rendent pas compte.
Et qui nous font une remarque là-dessus, genre, mais tu m'écoutes pas, là, on devient folle. Donc, Lisa, là, je m'en suis donnée à cœur joie, elle a laissé tourner la caméra et je dis, oui, parce que voilà, et c'est tout. Et nous, on fait tout pour vous et je vous, jamais un merci. Et puis, alors, ils sont ensemble, les machins, ils s'adorent, ils se le disent. C'est tellement vrai, quoi. Ils sont, d'un coup, ils se réunissent, eux, contre la mère, quoi. Ça
c'est
me rend
drôle,
folle.
C'est drôle ce moment. C'est très, très... Il y en a beaucoup comme ça qui sont extrêmement drôles, mais ça vous. Ce personnage vous va bien. J'ai pratiquement.
Juste
vu...
après folle, ça vous va bien, vous êtes sûr, Nagui?
Ouais. Non, mais parce que
j'adore les personnages qui ont. Sont décalés.
Je suis fan de ce que fait Sandrine et depuis longtemps. Je crois avoir tout vu, y compris au théâtre, mais pas dans ce registre-là, ouais.
Bah, en fait, j'ai joué des choses drôles, mais très écrites et très composées, en fait.
Mais improvisées.
Improvisées et c'était très écrit aussi, hein, mais avec des moments comme ça de liberté. Mais c'est surtout un personnage ancré dans la réalité. Là. Mmh, mmh. C'est un personnage qui me ressemble,
qui
ressemble à toutes les femmes, qui ressemble à notre génération, qui nous, on s'identifie tout de suite à elle. Il n'y a pas de
et
distance.
Et la phrase qui est dans la bande-annonce, donc on peut la dire sans divulgâcher, de la fille qui dit « Mais j'ai maman, j'ai des rêves », et la maman qui lui répond « Mais moi, je rêvais de me marier avec Georges Clooney. » Et ben, ça peut être possible.
Oui, on n'a pas, on réalise pas tous ses rêves. Regarde, moi, je rêvais de me marier avec Georges Clooney, ben ça n'arrivera pas.
C'est pas possible, ça c'est tellement drôle, mais tellement vrai.
Ouais, tellement vrai. Mais il n'y a que des répliques comme ça dans lesquelles on se retrouve et qui sont super drôles. Mais oui, c'est des...
Et qui ne sont pas que des vannes pour des vannes, il y a du fond.
Non, bien sûr. Non, c'est toujours sincère. Si on fait des vannes pour des vannes, moi, d'abord, je n'accepte pas le film en général.
On y viendra tout à l'heure avec Daniel Morin, on n'y est pas encore pour l'instant. C'est Tanguy Passion. Tanguy, vous allez nous parler de Jack Lang.
Oui, il y a deux choses que je vois depuis le jour de ma naissance.
Ah bah tu vois, Zizi.
Mon Zizi et Jack Lang. Pour les différencier, Jack Lang, c'est celui qui a longtemps porté un col Mao. Tout Français né entre 1922 et aujourd'hui connaît Jack Lang, puisqu'il a fait la plus longue carrière du monde. À côté de Rugal, c'est un stagiaire de 3e académie qui fait couler l'iris très tôt. À 80 piges, il est toujours en train de bosser à l'Institut du Monde Arabe. Un job super si on aime la culture et qu'on n'est pas raciste. Donc sur le total des Français, il y en avait 14 qui pouvaient prétendre au job. C'est lui qui a été choisi. C'est toujours lui qui est choisi, parce qu'il a un réseau grand comme le corps d'Edouard Philippe. Cette chose longue et blanche qui est allée l'été sur la plage fait dire aux enfants, maman, j'ai trouvé un os de sèche. Il faut dire qu'il a tout fait, Lang. Il a été conseiller de Paris, maire de Blois et surtout ministre de la Culture de 81 à 86, où il a été plus frénétique qu'un castor sans queue, soucieux de faire aussi bien que ses congénères au moment d'édifier un barrage. Il a fait construire l'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille, la Bibliothèque Nationale, tous les bâtiments moches qui, 30 ans plus tard, tombent par petits bouts sur les gens qui se baladent et donc meurent. C'est lui. Il a lancé la fête de la flûte pourrie, de la biture et de la baston à 4h du mat, que lui a surnommé la fête de la musique. Une horreur. À chaque fois que je l'ai faite à mon 4e groupe de rock ska festif, j'avais envie de rejoindre Daesh pour annihiler l'Occident. Il a fait la fête du cinéma. Quand j'étais jeune, on payait le premier film, les autres étaient à 1 franc. Pour avoir une place en salle 2, il fallait quitter la salle 20 minutes avant la fin du film. Une vraie connerie. De 86 à 93, j'ai pas vu une seule fin de film. Cocktail avec Tom Cruise, j'ai même pas pu noter la recette du tequila sunrise. Toute ma jeunesse, j'étais obligé de me défoncer à la Valstar. Bref, la moitié des fêtes et des monuments sont dues à Jack Lang. S'il n'avait pas existé, on serait en train de s'ennuyer comme des rats morts. Ou des rats vivants si on habite Paris. Ce mec est donc une légende. Quand il mourra en 2080, il faudra le naturaliser, comme ma tante a fait avec son teckel, afin de l'exposer à l'ENA pour montrer aux jeunes feignasses d'aujourd'hui ce que c'était un type qui bûche. Et même là, si vous passez de la techno-trance, le Lang empaillé continuera à bouger du boule. Jack Lang, c'est la dernière star de la politique. Et comme toute star, bah, il est bichonné. Tous les matins, sa domestique, qu'il surnomme Jack Lang parce que ça lui rappelle le nom de quelqu'un qu'il adore, lui fait sa teinture homme color 50 nuances de black, lui dit « Maître, quel costume voulez-vous enfiler ?» ouvre la porte du dressing et là, 1500 costards attendent. Pour vous donner une idée, Laurent Wauquiez en tout a 2 futs, une parka rouge trouée et un anorak moche de la région Auvergne. Quand il croise des gens, ils le prennent et le foutent dans la poubelle jaune. Lang, c'est une actrice d'Hollywood sans la bipolarité ni le botox. Il est tellement à fond sur le style que s'y croise en soirée un homme qui a le même petit top que lui, il se suicide en avalant 160 petits fours.
Bon, et le magazine L'Obs, oui, a révélé ce week-end qu'on lui avait offert beaucoup, mais beaucoup de costumes.
Oui, entre 2013 et 2018, Jack Lang aurait reçu, d'après L'Obs, pour 195 000 euros de costumes Small Rialto. C'est énorme. Avec cette somme, j'ai calculé, on peut habiller Daniel Morin pendant 2728 années. Et ce répond son avocat sans contrepartie. Juste parce que Francesco Smalto, le créateur, aimait bien Lang. C'est-à-dire que si Louis-Christophe Waikiki, le boss de LC Waikiki, avait trouvé Lang formidable, dès 88, l'autre se baladait avec un t-shirt représentant un singe en train de fumer une banane sur un skate. 2015, Francesco Smalto meurt, Lang continue de recevoir des costards. Avec lui, l'amitié dépasse la mort. C'est-à-dire qu'on est dans Highlander. Hein, il est éternel. Alors son avocat continue, il dit « Jack Lang, par le passé, a aussi eu en cadeau des vêtements Thierry Mugler, mais aussi Yoji Yamamoto et Yves Saint Laurent. Mais pour lui, c'est la base. Il ne soupçonne même pas l'existence des magasins Jules. Hein, c'est trop bête qu'il serve de son compte Instagram pour poster des photos de lui en voyage en Égypte, poursuivi par des Égyptiens hurlant « Rattrapez-le, c'est la momie de Ramsès II !» Parce que Nabila, avec moitié mois de fringues, elle facture 4000 euros la photo en placement de produit. Hein, Lang, l'air coquin avec un doigt dans la bouche et sa chemise Smalto ouverte sur son torse, à la BHL à la Saint-Tropez ou à la BHL à Alep, enfin partout il est sapé pareil. Et ben bon, le gonze explosait Internet. Donc là, moi, l'anonyme de base, qui suis aussi peu intégré au star system que Pierre Arditi à la droite française, je me dis, quel est l'intérêt pour une marque d'habiller Jack Lang? Parce qu'on n'est pas sur du Baptiste Giabiconi première époque. Si je devais faire l'amour à un homme, parce que j'aurais lu sur Internet que c'est le lobby LGBT qui contrôlait les médias, je choisirais pas Jack Lang, mais quelqu'un de plus frais, comme Alain Juppé. Hein, après l'orgasme, il me dirait merci, ça me distrait, je m'ennuie au Conseil constitutionnel, le plus jeune là-dedans c'est Giscard, à côté Bouteflika c'est Kev Adams. L'avocat de Lang, Maître Merlet, répond à ça, il dit « C'est grâce à sa notoriété qu'il a tous ses cadeaux. Pour avoir tout gratuit, il faut donc être une star, c'est-à-dire avoir plein d'argent. Le système est mal fait. C'est Ingrid Levavasseur que Smalto devrait habiller, ou les ouvriers de l'usine Ford de Blanquefort qui vont se retrouver sur le carreau. Bah, un Ford Galaxy, c'est largement aussi moche que l'Arche de la Défense. Bref, soyez une star ou vous aurez que dalle. Vous comprendrez aisément que moi, je suis obligé d'acheter moi-même mes fringues. Je sais, ça se voit.
Sur France Inter. Et Tanguy va être pour la première fois à Avignon dans le off du 10 au 19 juillet au Théâtre de Paris. C'est vraiment la grande classe.
Tanguy Passureau à l'instant et tous les jours sur Inter, normalement vers midi 10 si on est à l'heure. Mon bébé Sandrine Kiberlin est venue nous présenter ce film avec Thaïs Alessandrin. Alors justement, parlons de Thaïs et de la justesse, c'est la fille de Lisa Azuelos, de la justesse de ce jeu dirigé par sa maman.
Bah ouais, elle était
particulier dans comme situation quand même, particulier.
Vous, oui, particulier, mais alors ça coulait tellement de sources que ça n'a pas fait un sujet. Hein. Franchement, moi je l'ai tout de suite accepté dans tout ce lot de...
Elle vous l'a dit dès le début ?
Elle
vous l'a dit, voilà.
Elle me l'a présenté, on a fait connaissance, après on a lu une séquence, je crois, mais très vite, c'était une jeune actrice que j'avais envie de protéger un tout petit peu, parce que c'est ses débuts, donc on a toujours envie de faire attention à elle et tout ça. Il y a eu, je sais pas, peut-être 10 minutes de trac un petit peu paralysant et après elle était lancée, mais c'est son rôle. Hein. En fait, Lisa a commencé à écrire ce film parce qu'elle filmait tout ça avec sa petite caméra, son petit téléphone. Elle avait des heures et des heures de rush et elle s'est, en regardant tout ce qu'elle avait, c'est-à-dire qu'elle filme, elle filme pas l'exceptionnel, elle filme le quotidien, elle filme le rien, elle filme les bâillements de nos enfants qui nous énervent.
Oui, puis les vannes aussi. Les vannes, les phrases qui fusent.
Les clopes le matin, en l'occurrence, chez elle. Donc tout ça, elle en avait par milliers des heures de rush et elle s'est dit, je vais en faire un film.
À propos de tabac ou de drogue, elle est très laxiste, la maman, dans le film.
Elle préfère que ça se passe devant elle que dans son dos.
Voilà. C'est un choix. Ouais, c'est
ouais,
ça,
et du coup, ils font rien de plus grave que ça. En tout cas, ça a l'air d'être très transparent. Voilà, après moi c'est un truc que Lisa vit, donc ça fait partie du personnage et je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que en voyant le film, après je me suis dit j'ai quand même mis un peu de moi dans l'affolement. C'est-à-dire qu'en lisant le scénario, il n'y avait pas d'affolement et là Héloïse elle est quand même tout le temps à dire je suis affolée, tu m'affoles.
Oui, je suis affolée, ouais.
C'est très drôle.
Et c'est venu sur le moment ça.
Non, même la manière dont vous dites je suis affolée.
Elle est très affolée.
Extrêmement drôle. Il y a dans ce film également, aux côtés de Kian Kojandi, Arnaud Valois, Patrick Chesnay, que je n'ai pas cité tout à l'heure, pardon.
Le grand-père.
Qui joue mon père,
Et ouais, absolument touchant.
Très touchant parce que, elle parle du temps qui passe, donc il y a aussi le temps qui passe pour nos parents.
Et Yvan Attal en parfait lâche, l'homme qui abandonne le foyer. Voilà, c'est pas un documentaire, c'est un rôle, je le rappelle.
Ex-mari qui part à l'étranger.
C'est ça. Et qui n'aide pas spécialement le financement des études.
Il n'a pas le temps parce qu'il refait sa vie. Et c'est pas le moment de l'emmerder.
C'est de dire aussi que c'est plus facile pour un garçon de refaire sa vie. Enfin, c'est l'un des clichés que l'on a souvent que pour une fille.
En fait, ça pourrait dire ça, mais je pense qu'elle dénonce pas du tout ça, Lisa. Elle parle d'elle parce que c'est une femme et qu'elle a choisi de parler de ce qu'elle connaît, donc d'une femme. Mais elle aurait pu parler d'un homme. Ça l'aurait intéressé aussi, d'ailleurs. Un homme, aujourd'hui, peut élever ses enfants tout seul. Mm-hmm. Parce qu'il y a les gardes partagés, parce que certains enfants, quand ils ont le choix, préfèrent rester avec le père. Et donc, c'est le père qui vit le départ du dernier. Il y a plein d'hommes qui se reconnaissent là-dedans.
La communication qu'il y a entre les frères et sœurs aussi c'est un moment fort du film aussi, sans aucun adulte, quand ils sont, et puis jalousie,
la protection solidarité, le grand frère dans l'histoire protège beaucoup la petite, voire la possède un peu, mais un petit peu possessif quand il s'aperçoit que son meilleur ami a peut-être une histoire avec elle. C'est très juste, ça. Moi, je le vis autour de moi, autour des amis de ma fille. Les frères et sœurs, ce rapport-là est très très particulier, elle le montre très bien dans le film.
Ouais, c'est bien ressenti. Mon bébé, c'est au cinéma ce mercredi. Daniel Morin, c'est tout de suite sur Inter. Vas-y mon bébé.
Merci chérie. Bon ben voilà, je pars une semaine en vacances. C'est le bordel. En Algérie, ils n'ont pas compris que je blaguais quand je disais que Bouteflika était liquide. Non, ils m'ont cru et maintenant ils descendent tous dans la rue pour demander qu'il ne se représente pas pour un cinquième mandat. Mais il est au top physiquement, il a passé 15 jours en Suisse. Comme Nagui. Non. Il en a sûrement profité pour déposer des valises de cash. Comme Nagui. Puis il a fait son petit séjour de remise en forme. Comme Nagui.
Bah, tout est arabe, hein.
Là-bas, Bouteflika a changé son sang. Comme Nagui. Bouteflika a dormi dans un caisson oxygène. Comme Nagui. Bouteflika, on lui a nettoyé les organes. Non. Comme Nagui. Bouteflika, on lui a changé sa sonde. Comme Nagui. Et enfin, Bouteflika a payé son séjour. Voilà. Eh ben Bouteflika, il est rentré hier et je vous garantis qu'il est en pleine bourre. Fini les séquelles de l'AVC, fini de parler comme Jean Lassalle, fini de baver sur ses pompes, fini de faire pipi tous les matins à 7h et de se réveiller à 8. Maintenant, c'est entraînement physique intensif jusqu'à l'élection. Footing, stretching, bodybuilding, yoga, samba, zumba. Ce matin, au développé couché, il soulevait 180 kilos. Il a couru 19 kilomètres en 45 minutes. Hier soir, il a battu au bras de fer Teddy Riner. Cette nuit, à la piscine, il a battu au 100 mètres nage libre un dauphin. Il a aussi recouvré l'appétit. Ce matin, au petit-déj, il a mangé 4 poulets et un demi-bœuf. Il a bu 12 litres de jus d'orange. Le tout accompagné de son sandwich aux stéroïdes et de son smoothie à la testostérone. Le 18 avril prochain, il sera au sommet de sa forme. Abdelaziz, il va tout défoncer. Allez les gars, y ait confiance, merde. Ah, autre affaire pendant que j'étais absent. Je croyais que ça allait se calmer pour l'église. Eh ben non, qu'est-ce que j'apprends? Le patron de l'enseignement catholique nantais organisait des soirées privées avec distribution de cocaïne. Le gars était responsable de plus de 100 000 élèves d'établissements privés. Diplômé en lettres classiques, en théologie, en philosophie, officier de marine de réserve, plusieurs fois médaillé, le gars était aussi dealer de coke. J'imagine les soirées organisées par le gars. Vous l'aurez compris, mes enfants, le devoir de tout bon catholique est d'aider son prochain, de le faire sans réserve, dans le respect, la tradition de charité. Nous sommes tous des privilégiés, et il y a tant de gens dans le besoin. N'hésitons pas à donner, car donner à l'autre, c'est s'enrichir soi-même. Quand la parole de Dieu vous accompagne, mes enfants, c'est merveilleux. Alors, maintenant, c'est l'heure de la pause. Qui veut de la coke? Qui n'a pas sa ligne de coke? Jean-Baptiste, tu as deux lignes de coke devant toi, tu vois bien que Marie-Madeleine n'en a pas. Qu'est-ce qu'on a dit sur le partage? L'aide, le don? Voilà, tu lui donnes une ligne. C'est bien Jean-Baptiste. Je vois pas où est le scandale. Au final, c'est plutôt bien si ça se fait dans ces conditions. Peut-être un exemple à suivre. Aujourd'hui, on le sait, les enfants sont réfractaires à l'école. Pourquoi? Parce que c'est pas festif. On ne s'éclate pas, et encore moins quand il s'agit de catéchisme. Du coup, adopter sans attendre. La méthode nantaise. La méthode nantaise de catéchisme, c'est la méthode... Catécoco. Chaque semaine, pendant les cours de Catécoco, vous apprendrez à mieux connaître la Bible. Mais attention, pas n'importe quelle Bible. La Bible qui fait « waouh ». Avec la méthode Catécoco, la mer rouge qui s'ouvre, c'est pas juste... Ouais, il y a la mer qui s'ouvre. Quel homme, ce Moïse? Non, c'est plutôt... Oh putain les gars, trop délire, y'a la mer qui souffle, je crois pas un truc de ouf. Moïse, il est godin, plus fort que Garcimore, le com. Redonner les couleurs et des sensations aux aventures de Jésus et de ses amis grâce à la méthode Catecoco. La méthode Catecoco, une expérience à vivre en partenariat avec Escobar Productions et la région Pays de Loire. Voilà pour les trucs qui m'énervent et qui arrivent quand je suis pas là. Et encore, j'ai pas parlé des Anglais qui veulent le Brexit et qui viennent nous battre le PSG à Paris. Faudrait savoir, les mecs.
Ça saurait, ça saurait. Merci, merci, moi.
La bande originale avec Nagui.
Deux prix au Festival du film de l'Alpe d'Huez cette année. Sandrine Kiberlin, Thaïs Alessandrin dans Mon bébé avec Victor Belmondo, Michael Lumière, Camille Clarisse, Kian Kojandi, Arnaud Valois, Patrick Chenet et Yvan Attal. Ça sort ce mercredi au cinéma.
Et des scènes hyper tendres parce que les enfants sont grands, mais il y a plein de flashbacks où on voit aussi que le regard de la mère n'a pas changé. Ça reste tous des bébés. Il y a des scènes hyper, hyper belles. J'imagine que ça devait être un plaisir à tourner aussi.
Ouais, il y avait trois petits qui sont géniaux dans le film. Qui sont vraiment. Ouais, il y a des flashbacks très bien amenés dans le film parce que moi, j'aime pas les flashbacks dans les films. Et là, j'ai trouvé ça super. La façon dont Lisa a tout de suite voulu. Par exemple, il y a une scène où ma grande, enfin la petite dernière, mais qui est devenue grande, à son premier amoureux qui vient à la maison et j'ai un flash de deux secondes quand je la vois partir pour la première fois avec son amoureux avec dans, donc dans sa chambre de deux secondes d'elle à trois ans quoi,
avec son
à
doudou.
Cinq ans avec son doudou
trop fort.
Des petits trucs comme ça qu'on a vraiment dans la vie quoi. Parfois je regarde ma fille et je me dis où on danse, où on fait des trucs et et immédiatement je la revois ou je la ressens à, quand elle avait 4 ans quoi.
En tout cas, le temps passe vite, mais
le temps.
Il n'a aucune emprise sur vous, cher Sandrine.
Merci
mille fois, en tout cas, d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
Demain, nous recevrons Sylvain Tesson, mais on a d'abord des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, désolé déjà pour Julia Vargelu, qui ce matin a eu des nouvelles plutôt éloquentes de son ancienne camarade, Sandrine Kiberlin. Ça va, elle vous aime pas, voilà, c'est pas un drame, et encore, vous l'avez pas entendu à la pause, hein. Ce qu'elle a dit sur vous, c'était limite insoutenable. Désolé pour Quentin Tarantino, Fabien Otoniente et tous les autres grands réalisateurs qui n'ont pas reçu de lettres de Sandrine Kiberlin. C'est pas grave, c'est juste qu'elle aime pas votre travail. Désolé pour Meryl Streep, Mimi Mati et toutes les autres grandes comédiennes qui n'ont pas reçu de coup de fil de félicitations de Sandrine Kiberlin. C'est pas grave, c'est juste qu'elle aime pas votre travail, c'est tout. Désolé enfin pour Julien Clerc, dont la carrière, l'histoire, l'écriture, l'œuvre, l'avenir a été souillé, dégueulassé, tambouriné par Sandrine Kiberlin, pour qui il n'est, je cite, qu'un joli petit cul bien bourni. Bah Juju, un hommage, c'est un hommage.
Ça, c'est fait.
Ça, en le disant, je me disais, ça va.
C'est une connerie, ouais.
C'est que bon, Daniel Morin, c'est la voiture balai. Il ramasse tout ce qui traîne.
Et j'en fais des fleurs.
Merci Sandrine. On rappelle Mon bébé au cinéma ce mercredi. Et tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nagui. Bonjour mes oisillons. Je dis mes oisillons parce que j'ai vécu quand même le syndrome du nid vide. Et il y a pire, il y a le syndrome du livide. Ça, c'est quand vous vous faites plaquer.
Ah, c'est froid.
Alors quand les deux arrivent en même temps, je vous dis pas.
Quelque chose à rajouter, Sandrine?
Merci les amis. À demain.
Salut. Salut.
Au revoir.